Chapitre 8. Le chapitre 8 des actes vus sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 8 des actes montre un tournant décisif où l'évangile s'étend au-delà du cadre centré sur Jérusalem et les Juifs vers la Samarie et les Gentils. Cette expansion n'est pas l'histoire d'une réussite d'une simple stratégie missionnaire, mais un récit historique réel de la façon dont l'évangile de l'eau et de l'esprit déjà accompli brise les frontières de la lignée, de la religion et de la culture. Actes chapitre 8, versets 1 à 4, l'œuvre de Dieu utilisant la persécution de la foi comme moyen d'expansion. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le chapitre 8 des Actes, versets 1 à 4, traite de la scène où, après le martyre d'Étienne, une grande persécution a frappé l'église de Jérusalem, et à l'exception des apôtres, tous ont été dispersés dans toutes les contrées de la Judée et de la Samarie. La Bible témoigne, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Cela montre que l'Évangile ne s'arrête pas même au milieu de la crise appelée persécution, mais qu'il s'étend plus tôt. C'est parce que ce qu'il prêchait n'était pas de simple morale ou des systèmes, mais l'événement du salut accompli selon lequel les péchés de l'humanité ont été transférés par le baptême de Jésus et jugés sur la croix, de sorte que le problème de tous les péchés a pris fin. Actes, chapitre 8, versets 5 à 8. La joie du salut qui a visité la terre d'hostilité à travers l'Évangile qui est venu sur la Samarie. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Philippe descend dans la ville de Samarie et prêche le Christ au peuple. La Samarie était une terre d'hostilité qui était complètement ignorée par les Juifs sur les plans religieux et ethniques. Mais lorsque de nombreuses personnes ont eu la foi après avoir entendu l'évangile que Philippe a prêché, la Bible rapporte qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Cette joie n'était pas simplement due à la guérison de maladies ou à des miracles, mais était le résultat de la vitalité qui est venue lorsqu'ils ont réalisé que l'évangile de l'eau et de l'esprit, selon lequel le pardon des péchés était achevé, s'appliquait également à eux. Actes chapitre 8, versets 9 à 13, le malentendu de Simon, un avertissement sur l'essence de l'évangile, non sur la puissance. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent dû cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Simon le magicien est étonné de voir les signes et la grande puissance que Philippe accomplit. Et après avoir été baptisé, il suit Philippe de tout son cœur. Cependant, le problème de Simon résidait dans le fait qu'il ne réagissait qu'à la puissance du Saint-Esprit elle-même plutôt qu'à l'assurance de la rémission des péchés, qui est l'essence de l'Évangile. Même s'il a reçu le baptême, il a mal compris le Saint-Esprit comme un moyen d'étendre son propre pouvoir. L'incident de Simon avertit que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est un ministère qui met fin au péché éternellement d'abord, avant de donner une quelconque puissance. Actes chapitre 8, versets 14 à 17, la descente du Saint-Esprit en Samarie, le même évangile et l'unité apostolique. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Les apôtres à Jérusalem entendent que la Samarie a également reçu la parole de Dieu et envoient Pierre et Jean. Ce n'est que lorsqu'ils prient pour les croyants samaritains et leur imposent les mains que le Saint-Esprit vient sur eux. Ce n'était pas que la descente du Saint-Esprit était retardée, mais c'était la considération de Dieu pour confirmer publiquement le fait que les Juifs et les Samaritains partagent le même Jésus qui a pris les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, de sorte que le jugement du péché s'est terminé à la croix, et que le même Saint-Esprit vient sur eux. Actes chapitre 8, versets 18 à 24, le refus de vendre des dons, le don de Dieu qui ne peut être acheté avec de l'argent. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Lorsque Simon voit que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres, il demande, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » À cela, Pierre le réprimande sévèrement, disant « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas un objet de récompense ou de transaction humaine, mais le don du Saint-Esprit donné gratuitement à ceux dont la rémission des péchés est déjà achevée, et il est l'esprit de témoignage. » Actes chapitre 8, versets 26 à 40, l'eunuque éthiopien, une confession immédiate à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azo, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Par la direction du Saint-Esprit, Philippe rencontre l'eunuque éthiopien. L'eunuque lisait Ésaïe, chapitre 53, mais n'en connaissait pas le sujet, et Philippe, en commençant par cette écriture, enseigne Jésus et prêche l'Évangile. Philippe a clairement expliqué le fait qu'avant la souffrance sur la croix, Jésus a eu les péchés du monde transférés sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean. En conséquence, l'eunuque, arrivant à un endroit avec de l'eau, en descendant la route, demande, disant « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Ici, le baptême n'est pas une condition pour laver les péchés. Mais en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit déjà accompli, il a reçu le baptême comme un gage de foi, et l'eunuque poursuit sa route avec une grande joie. En conclusion, le chapitre 8 des Actes témoigne du processus d'expansion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, perçant la persécution et abattant les frontières des nations et des classes. Le Saint-Esprit n'est pas un outil de pouvoir, mais celui qui garantit le salut accompli. Et le baptême est une sainte confession de l'élimination du péché déjà achevé. Parce que les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus par le baptême que Jésus a reçu de Jean et ont été éternellement résolus sur la croix, l'évangile coule sans cesse sur la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un sermon de Paul Sijong. La parole du chapitre 8 des Actes, versets 1 à 40, contient le processus dynamique de la propagation de l'Évangile aux nations, alors que l'Église était dispersée dans toutes les directions en raison de la persécution, mais en son centre se trouve toujours la question essentielle de savoir si l'unique Évangile a été prêché avec précision. Ici, si nous regardons ce chapitre du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons, nous pouvons voir que le chapitre 8 des Actes est un chapitre très important qui montre comment la précision de l'évangile et le témoignage du Saint-Esprit sont combinés en un seul et agissent, allant au-delà d'une simple histoire de réussite de l'évangélisation. Après le martyre d'Étienne, une grande persécution s'est élevée contre l'église de Jérusalem et ils ont tous été dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, à l'exception des apôtres, mais ceux qui avaient été dispersés allaient partout en prêchant la parole de l'évangile. Le point important ici est le fait que, bien que l'environnement ait pu changer, le contenu de l'évangile qu'ils prêchaient n'a jamais été flou. Les saints proclamaient, sans compromis, non pas un simple réconfort ou des leçons éthiques, mais la vérité selon laquelle Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé dans le fleuve Jourdain, et a accompli le salut en recevant le jugement pour ses péchés sur la croix. Lorsque Philippe est descendu dans la ville de Samarie et a prêché le Christ au peuple, de nombreux signes sont apparus et il y a eu une grande joie dans cette ville. La source de cette joie n'était pas dans les phénomènes mystérieux de guérison des maladies ou de l'expulsion des démons, mais provenait de l'assurance de l'Évangile selon laquelle le problème du péché était fondamentalement résolu. La guérison physique peut à nouveau vaciller avec le temps, mais l'Évangile de la rémission des péchés accompli par le baptême et le sang de Jésus rend l'âme humaine éternellement libre et offre une véritable paix qui ne vacille dans aucune situation. D'autre part, bien que Simon le magicien ait cru et qu'ait été baptisé après avoir vu les signes de Philippe, lorsqu'il a vu le Saint-Esprit descendre par l'imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent et a imploré disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit ». Pierre l'a sévèrement réprimandé disant « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, déclarant que son cœur n'était pas droit devant Dieu ». Le problème de Simon résidait dans le fait de mal comprendre le Saint-Esprit comme un outil ou un pouvoir pour satisfaire ses propres désirs. Le Saint-Esprit ne vient pas pour l'avidité d'une personne en qui le péché demeure, mais vient uniquement pour confirmer la vérité à ceux qui croient à l'Évangile selon lequel le péché a pris fin par le ministère de Jésus. Or, lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur ont envoyé Pierre et Jean, et lorsqu'ils sont descendus, ils ont prié pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Puis les deux apôtres leur ont imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est un événement où le Saint-Esprit a publiquement confirmé que l'évangile auquel les Samaritains croyaient était identique à l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par les apôtres. La présence du Saint-Esprit n'ajoute pas une nouvelle méthode de salut, mais est une œuvre qui scelle dans le cœur de tous les croyants que l'évangile de l'eau et du sang déjà prêché est la véritable vérité venant de Dieu. Un ange du Seigneur a ordonné à Philippe de se lever et d'aller vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem, à Gaza, qui était un désert. La raison pour laquelle Dieu a envoyé Philippe dans le désert, quittant la scène du grand réveil, était de prêcher l'évangile exact à une seule âme, un eunuque de Candace, la reine des Éthiopiens. L'eunuque roulait sur son char et lisait les écrits du prophète Ésaïe, mais il ne savait pas à qui se référait la parole qu'il lisait. Cela montre que l'acte de lire la Bible en soi ne garantit pas le salut, mais que la porte de la vie ne s'ouvre que lorsque l'on réalise avec précision le ministère de Jésus-Christ. Alors Philippe a ouvert la bouche et en commençant par cette écriture, lui a prêché Jésus Et l'eunuque a réalisé que bien que Jésus ait été mené comme un agneau à la boucherie, en réalité, il était celui qui a pris en charge tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean et celui qui a reçu la punition pour ses péchés à notre place sur la croix. Entendant cet évangile exact, alors que l'eunuque descendait la route, il est arrivé à un endroit avec de l'eau et a demandé le baptême disant « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Ce baptême n'était pas une condition pour laver le péché, mais un signe de foi confessant qu'il avait déjà obtenu la rémission des péchés par le baptême de Jésus et le sang de la croix, et l'eunuque a poursuivi sa route en se réjouissant. Le chapitre 8 des Actes nous éveille au fait que l'exactitude du contenu prêché est beaucoup plus importante que le lieu où l'évangile est prêché. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui vient donner des expériences mystérieuses, mais travaille pour témoigner que l'évangile de l'eau et de l'Esprit est la vérité. Le baptême de Jésus-Christ, la croix, est le témoignage du Saint-Esprit que Philippe a prêché avec constance à la foule dans la ville ou à une seule âme dans le désert s'applique également à nous aujourd'hui. Partout où cet évangile est proclamé correctement, l'effort religieux humain disparaît et la véritable liberté et la joie de vivre donnée par Dieu deviennent plénières. Basé sur les paroles du chapitre 8 des Actes, versets 14 à 25, si nous regardons du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par Paul C. Jong, la parole du chapitre 8 des Actes, versets 14 à 25, est un texte où la ligne de démarcation entre la vraie foi et la fausse foi est clairement révélée au milieu du réveil en Samarie. Ici, si nous lisons cette parole du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons et prêchons, l'accent du texte n'est pas simplement sur la méthode pour recevoir les dons du Saint-Esprit, mais sur à qui et pourquoi le Saint-Esprit vient. Et il avertit strictement comment la foi peut être instantanément déformée lorsque l'exactitude de l'évangile s'effondre. La raison pour laquelle les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ont envoyé Pierre et Jean après avoir entendu que les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu par l'évangélisation de Philippe, était de confirmer leur unité au sein du même évangile, afin que l'Église samaritaine ne se tienne pas sur un autre évangile. Le Saint-Esprit venant lorsque les apôtres leur ont imposé les mains n'était pas parce que leur salut était incomplet, mais est un événement où le fait que le même évangile de l'eau et de l'Esprit est vrai a été publiquement confirmé par le témoignage apostolique. Le Saint-Esprit témoigne toujours du salut accompli par le ministère de l'eau qui est le baptême de Jésus-Christ et par le sang de la croix et est le sceau de Dieu qui scelle la véracité de l'évangile déjà accompli dans nos cœurs. Simon le magicien, voyant que le Saint-Esprit était donné, a offert de l'argent et a imploré disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit ». Actes, chapitre 8, verset 19, et a essayé d'acheter ce pouvoir. Il avait déjà cru et même reçu le baptême. Mais il a grandement mal compris le Saint-Esprit, non pas comme Dieu lui-même, mais comme un pouvoir que les humains peuvent posséder et utiliser. Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Saint-Esprit n'est jamais un objet de possession ou de transaction, mais est le témoin souverain qui vient uniquement pour confirmer la vérité dans le cœur de ceux qui croient au fait que les péchés ont été transférés par le baptême de Jésus et que le jugement a été terminé par la croix. Pierre l'a sévèrement réprimandé disant « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. » car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Actes, chapitre 8, versets 20 à 21. Ici, le don de Dieu ne signifie pas des dons spirituels, mais le salut lui-même, et parce que le salut a déjà été accompli et donné par le ministère de Jésus-Christ, il ne peut jamais devenir un objet de transaction. Le Saint-Esprit ne dégrade pas l'Évangile en un outil pour satisfaire les désirs humains, mais joue plutôt le rôle de révéler le poids saint et la norme absolue de l'Évangile. La repentance à laquelle Pierre a exhorté n'était pas non plus un simple remords émotionnel, mais une exigence de changer fondamentalement la direction de la foi, comme le dit la parole « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Actes, chapitre 8, verset 22. Le problème de Simon résidait dans le fait de ne pas recevoir pleinement le salut comme ce que Dieu avait fait, mais de le considérer comme quelque chose qu'il pouvait acquérir et utiliser. Et la véritable repentance dont parle l'évangile de l'eau et de l'esprit consiste à se détourner d'une foi égocentrique et à retourner au salut parfait que Dieu a déjà accompli. Simon, saisi de peur, a demandé « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Actes, chapitre 8, verset 24. Mais la Bible laisse au lecteur la question de savoir s'il a véritablement obéi à l'Évangile. Les deux apôtres, après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, sont retournés à Jérusalem, prêchant l'Évangile dans de nombreux villages des Samaritains. Ce que les apôtres ont laissé derrière eux n'était pas une histoire d'expérience mystérieuse, mais uniquement le témoignage de la parole contenant la preuve de l'eau, du sang et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole écrite et ne soutient jamais le zèle humain qui s'écarte de la parole. Parce que si l'Évangile n'est pas clair, la foi se détériore instantanément en une transaction de pouvoir, nous devons humblement nous tenir sur la vérité selon laquelle Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement sur la croix et que le Saint-Esprit confirme ce fait. En fin de compte, le chapitre 8 des Actes, versets 14 à 25, nous enseigne que nous devons recevoir le Saint-Esprit comme un témoin, non comme un pouvoir, et croire à l'Évangile comme la vérité accomplie par Dieu, non comme un outil pour satisfaire les désirs humains. La foi qui se tient droite sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est une vie qui obéit devant la volonté de Dieu et demeure sous l'œuvre souveraine du Saint-Esprit, plutôt que de convoiter le pouvoir. C'est la pureté de l'Évangile que les apôtres ont protégée au péril de leur vie et l'essence de la foi que nous devons restaurer aujourd'hui. Questions et réponses sur le chapitre 8 des Actes. Première, l'Église de Dieu est persécutée par les personnes religieuses du monde. Est-il juste de s'efforcer de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit même dans de telles situations ? La Bible ne considère pas comme étrange que l'Église de Dieu soit persécutée par le monde, en particulier par des personnes au sein de structures religieuses. Jésus lui-même a été rejeté par les chefs religieux et les apôtres ont également rencontré la plus grande résistance au sein du système religieux juif. Par conséquent, le fait même de subir des persécutions en prêchant l'Évangile n'est pas la preuve d'un acte répréhensible. La Bible montre plutôt que des conflits peuvent survenir lorsque la vérité entre en collision avec les cadres religieux existants. Jésus a dit à l'avance à ses disciples qu'il souffrirait des tribulations dans le monde. Il a également dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Ce n'est pas une déclaration qui glorifie la souffrance en elle-même, mais une déclaration selon laquelle le conflit vécu à cause de l'Évangile n'est pas un abandon de la part de Dieu. Dans les Actes, les disciples n'ont pas cessé de prêcher l'Évangile même après avoir été battus. Ils ne pensaient pas que la valeur de l'Évangile diminuait à travers la souffrance. Cependant, en même temps, la Bible ne recommande pas l'imprudence ou les collisions inutiles. Elle dit que l'attitude de prêcher l'Évangile doit toujours être empreinte de douceur et de crainte. La vérité doit être dite clairement, mais l'attitude envers les gens doit être humble. Agir de manière provocante pour inviter la persécution n'est pas une attitude biblique. Cependant, il n'est pas non plus juste de diluer le cœur de l'Évangile ou de rester silencieux pour éviter la persécution. Le cœur est la direction. L'Église de Dieu doit prioriser la volonté de Dieu sur la reconnaissance humaine. Si nous arrêtons de prêcher l'Évangile par peur de la persécution, la raison d'être de l'Église peut être affaiblie. L'Église n'est pas une organisation en compétition avec le monde, mais une communauté qui délivre la nouvelle du salut. Par conséquent, même si la situation est difficile, l'essence de la prédication de l'Évangile ne doit pas être abandonnée. En conclusion, arrêter la prédication de l'Évangile parce qu'il y a des persécutions ne s'aligne pas sur le flux de la Bible. Nous devons simplement avancer avec sagesse et discernement en ayant à la fois l'amour et l'assurance. Prêcher l'Évangile dans une attitude qui ne crée pas de conflits inutiles tout en ne compromettant pas la vérité est la bonne voie. La souffrance ne peut pas affaiblir la valeur de l'Évangile, et Dieu accomplit sa volonté même au milieu de celle-ci. Deuxième, l'Église a-t-elle besoin de serviteurs de Dieu qui vivent en se consacrant pleinement à la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ? Si l'Église est une communauté qui prêche l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, en son centre, elle a besoin de personnes qui s'offrent pour l'Évangile. En regardant le flux de la Bible, Dieu a toujours suscité des personnes à qui il confierait l'Évangile. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il ne les a pas appelés comme de simples partisans, mais comme des personnes qui changent la direction de leur vie pour l'Évangile. L'apôtre Paul confesse également qu'il a placé le but de sa vie sur la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas un récit héroïque de quelques élus, mais un exemple montrant à quel point l'Évangile est précieux. Cependant, l'expression « se consacrer pleinement » ne signifie pas un zèle humain ou un sacrifice extrême. Dieu sauve d'abord par la grâce et fait naître la consécration en réponse à cette grâce. Une résolution forcée ou une consécration pour établir sa propre justice ne dure pas longtemps. La véritable consécration vient de la conviction de l'Évangile. Lorsque la foi selon laquelle le ministère de Jésus est parfait et clair, une personne désire naturellement utiliser son temps et sa vie pour cet Évangile. De plus, cela ne signifie pas que tous les saints doivent se consacrer de la même manière. Certains servent l'Évangile en tant que ministre à plein temps, certains au sein de leur lieu de travail et de leur famille, et d'autres avec des biens matériels et des prières. Parce que l'Église est un seul corps, les rôles confiés à chaque membre sont différents. Cependant, le point commun est que le centre n'est pas dans sa propre gloire, mais dans la justice de Dieu et dans l'Évangile. En fin de compte, l'Église a besoin de personnes qui s'offrent pour l'Évangile. Parce que l'Évangile ne se prêche pas automatiquement. Dieu prend plaisir à travailler à travers les gens. Cependant, cette consécration doit être le fruit de la grâce, non un mérite. L'Évangile vient en premier et la consécration en est le résultat. Lorsqu'il en est ainsi, l'Église devient une communauté vivante qui révèle la volonté de Dieu et non une organisation humaine. Troisième, les faux croyants peuvent-ils être mélangés avec les croyants au sein de l'Église de Dieu? La Bible ne dit pas que seuls ceux qui croient véritablement existent complètement séparés au sein de l'Église de Dieu. Elle montre plutôt la possibilité que les vrais croyants et ceux qui ne le sont pas soient mélangés au sein de l'Église à travers diverses paraboles et événements. Dans la parabole de l'ivraie, Jésus a dit que la bonne semence et l'ivraie poussent ensemble dans un même champ. Il a dit de laisser croître les deux ensemble jusqu'à la moisson, ce qui implique que dans l'histoire de l'Église, la vraie foi et la foi formelle peuvent coexister pendant une certaine période. De plus, même parmi les 12 disciples, il y avait Judas Iscariot. Extérieurement, il était dans la position d'un disciple et possédait la même apparence extérieure que les autres, mais son centre était différent. Cela montre le fait que ce n'est pas parce que l'on appartient à la communauté de l'Église extérieurement que tout le monde est dans le même état de foi. Dans les Actes également, des cas sont rapportés comme Ananias et Saphira, qui ont montré une attitude mensongère tout en étant au sein de la communauté. L'apôtre Paul a également averti que de faux frères entrent dans l'Église et essaient de déformer l'Évangile. Par conséquent, l'Église n'est pas un espace où la sécurité est garantie simplement par la taille ou l'apparence extérieure du rassemblement. Le centre de l'Évangile doit être clair et il doit y avoir du discernement par la parole. La Bible dit qu'avec le temps, la vraie foi et la foi qui n'est pas vraie sont révélées par leurs fruits. Cependant, le point important est le fait que l'autorité de trier, finalement les gens, n'appartient pas aux humains. L'œuvre de séparer complètement l'ivraie et le blé appartient en fin de compte à Dieu. L'Église doit être vigilante et discernée, mais elle ne doit pas détruire la communauté par des condamnations hâtives. En même temps, elle doit traiter clairement les enseignements qui brouillent l'essence de l'Évangile ou les distorsions évidentes. En conclusion, la possibilité que ceux qui ont une fausse foi soient mélangés au sein de l'Église de Dieu ne peut être bibliquement niée. Cependant, cette réalité ne détruit pas l'essence de l'Église. La vraie foi est finalement révélée et Dieu purifie en fin de compte son Église. Tout en gardant clairement l'Évangile, l'Église doit bâtir la communauté avec patience et discernement jusqu'à ce que Dieu les révèle. Quatrième. Aujourd'hui encore, y a-t-il ceux qui, comme Simon dans le chapitre 8 des Actes, essaient de recevoir le traitement d'un serviteur de Dieu en accomplissant des signes et des miracles? Simon, qui apparaît dans le chapitre 8 des Actes, était un personnage qui attirait l'attention des gens en pratiquant la magie en Samarie. Il était appelé « un homme avec une grande puissance » et les gens le considéraient même comme la puissance de Dieu. Cependant, même après avoir entendu l'Évangile prêché par Philippe et reçu le baptême, son centre n'était pas complètement changé. Voyant que le Saint-Esprit descendait sur eux lorsque les apôtres leur imposaient les mains, il a essayé d'acheter ce pouvoir avec de l'argent. Ici, son problème n'était pas le pouvoir lui-même, mais le cœur voulant acquérir un statut grâce au pouvoir. Pierre l'a réprimandé disant « Ton cœur n'est pas droit devant Dieu ». Ce n'est pas simplement souligner une erreur, mais une parole révélant que le centre de sa compréhension de l'Évangile était faux. L'œuvre du Saint-Esprit et la puissance de Dieu ne sont pas des objets de transaction, ni des moyens d'établir la gloire humaine. Extérieurement, Simon était dans la position d'un croyant, mais il ne pouvait toujours pas rejeter son désir religieux poursuivant le pouvoir et l'influence. Cet incident donne une leçon importante même aujourd'hui. Ce n'est pas parce que des signes et des miracles apparaissent que l'on peut conclure que la personne est nécessairement dans la volonté de Dieu. La Bible regarde le centre plutôt que les signes. Jésus a également averti qu'au dernier jour, beaucoup de gens diront « N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Mais le Seigneur les jugera sur la base de leur centre. La puissance appartient à Dieu, ce n'est pas une possession humaine. Le cœur de l'Évangile est l'enlèvement des péchés et la justice de Dieu. Cependant, certaines personnes essaient d'obtenir la reconnaissance des gens en plaçant la puissance et l'expérience avant l'Évangile. À ce moment-là, le ministère peut être corrompu en un outil pour établir la renommée humaine et non la gloire de Dieu. L'histoire de Simon montre avec quelle facilité le désir religieux avide de pouvoir peut brouiller l'essence de l'Évangile. En conclusion, la position de serviteur de Dieu n'est pas une position reconnue par la puissance, mais la position de celui dont le cœur est droit devant l'Évangile. Dieu valorise l'honnêteté du centre et la vérité plus que les signes révélés extérieurement. Le cas de Simon est un avertissement contre l'attitude consistant à poursuivre le pouvoir et la renommée au sein de l'Église, et montre clairement que le véritable ministère doit être concentré sur la révélation de la justice de Dieu et de l'Évangile.